Vous écoutez France Culture.
Le magazine de l'environnement avec ce matin une question au débeauté, qu'est-ce qui est sombre, l'avenir ou les précurseurs ? Question au débeauté, émission au débeauté elle aussi, nous recevons ce matin Benjamin Dessus. On vous a vu il n'y a pas si longtemps avec Bernard Laponche, vous étiez venu nous parler du méthane et de la sous-estimation dans tous les calculs qui sont faits par les politiques de l'importance du méthane dans la nécessaire réduction des gaz à effet de serre. On est là en train de parler du climat. Et donc on avait eu une émission qui a d'ailleurs suscité pas mal de remous, qui a intéressé pas mal de gens, puisque vous apportiez une information qui avait été occulté, non vu, par finalement l'ensemble et de la communauté scientifique et des politiques dans le monde. Depuis, vous avez publié un numéro spécial de Global Chance, des cahiers de Global Chance, qui s'intitule « De Grenelle à Bali, avancées, incertitudes, contradictions et perspectives ». Et puis surtout, nous avons eu une conversation téléphonique, vous et moi, où vous m'avez, pour la première fois, je pense, Benjamin Dessus, parler avec une certaine inquiétude de ce qui nous attend. Et j'avoue que j'ai été étonnée, puisque je vous connais comme quelqu'un d'extrêmement pondéré toujours et essayant d'être toujours dans un regard assez, non pas neutre ni objectif, puisque la question n'est pas là, mais en tout cas dépassionné par rapport aux questions qui nous préoccupent à terre à terre et qui préoccupe plus généralement ceux qui s'intéressent à l'environnement. Et puis il se trouve qu'il y a eu un colloque extrêmement intéressant au Sénat, il y a même pas 15 jours, un colloque organisé par la Fondation Sciences Citoyennes sur le thème des lanceurs d'alerte. Et à ce colloque était invité en quelque sorte le père de l'expression des lanceurs d'alerte, mais si, Francis Château-Renaud, je vous vois faire la moue, mais vous étiez venu, était-ce en 2000 je crois, à terre, lorsque vous aviez publié un ouvrage extrêmement intéressant, vous êtes sociologue, directeur d'études à l'École des hautes études, et vous aviez publié un livre intitulé, d'un très beau titre je trouve, Sombres précurseurs, les sombres précurseurs, et qui faisait le point sur la posture et la position du lanceur d'alerte dans nos sociétés. Je dis que vous êtes le père de cette expression, puisque c'est vous qui aviez, pour la première fois, je pense, traduit l'expression américaine « whistleblower » par « lanceur d'alerte ». Donc c'est celle-là qui est restée, finalement, dans les arcanes des débats qui font cours, celle de lanceur d'alerte, avec cette extrême difficulté qu'il y a pour les lanceurs d'alerte à se faire reconnaître, éventuellement à se faire protéger, puisque très souvent les lanceurs d'alerte, on l'a vu nous-mêmes à terre très souvent, ont des difficultés professionnelles énormes du fait qu'ils annoncent quelque chose de désagréable. Bon, lanceur d'alerte, évidemment, sous cette expression début 21e siècle, on peut reconnaître l'antique figure de Cassandre. Bien entendu. Donc, je voudrais ce matin, en fait, vous inviter l'un et l'autre. Vous ne vous connaissiez pas directement, même si vous avez entendu parler l'un de l'autre. Je voudrais vous inviter à discuter autour de cette figure de Cassandre. Et Benjamin Dessus, peut-être allez-vous commencer par nous expliquer ce qui vous fait aujourd'hui vaciller vers cette figure de Cassandre.
En fait, simplement peut-être parce que j'ai regardé de plus près les histoires du climat à travers l'histoire du méthane dont on a parlé il y a un mois ou deux, ça m'a amené à regarder de beaucoup plus près la façon dont les choses se passaient. Alors d'abord, pour faire ce genre de travail, on commence par lire le rapport qui a été fait par le GIEC et on s'aperçoit que ce rapport n'est absolument pas fait pour être lu. Il n'est pas fait pour être lu par quelqu'un d'autre qu'un scientifique, quelqu'un qui est normalement constitué n'a pas de raison de le lire. Et quand il demande
quand
d'ailleurs...
Quand vous dites pas de raison, c'est qu'il ne peut pas avoir envie non plus de le lire.
Il c'est pas fait pour que ce soit lu. On n'y trouve pas une espèce de cohérence globale entre les différents groupes de travail qui, manifestement, ont chacun travaillé dans leur coin. Et même s'il n'y a pas d'erreur dedans, dans le rapport de l'IPCC, du GIEC, dont je ne suis d'ailleurs pas capable de juger parce que je ne suis pas climatologue et je ne suis pas suffisamment spécialiste de la question, il est difficile d'en tirer une philosophie. Ça, c'est un premier point. La deuxième question, c'est quand vous tirez les fils de cette affaire avec difficulté et que vous trouvez non pas des erreurs de ce rapport, mais de mauvaises interprétations qui en ont été faites par la suite, personne n'a vraiment envie qu'on en parle. Bon. Ça m'a amené aussi à regarder, que ce soit les économistes, que ce soit les climatologues, personne n'a vraiment envie d'en entendre parler. Pourquoi, je ne sais pas, mais on va analyser ça.
Ce sera évidemment une des questions que nous poserons à Francis Chateaurinot.
Enfin, ça m'a amené à regarder un peu les publications des uns et des autres et à m'apercevoir que ce que disent un certain nombre de chercheurs, y compris dans le rapport du GIEC, est que les choses sont nettement plus graves qu'on ne l'imaginait. Et ça ne transparaît pas non plus complètement. En fait, en gros, les climatologues nous disent aujourd'hui, il faut faire attention à ce qui va se passer en 2150, ne pas atteindre des concentrations de gaz à effet de serre trop élevées, etc. Sinon, on aura des problèmes majeurs. Mais deuxième problème, et ça, c'est en filigrane et c'est pas complètement dit, il faut pas y aller n'importe comment. Si on y va par un trajet où on passe par des concentrations trop élevées, on va avoir des ennuis majeurs et on n'arrivera jamais à la cible de 2150. Et ça, c'est assez nouveau. Et puis quand on regarde les choses de plus près, c'est fait à partir de scénarios qui imaginent des évolutions de concentration de gaz à effet de serre. Et qui disent, attention, vers 2050, on va avoir des ennuis si on dépasse tel et tel truc. Bon. Et puis on regarde aussi les émissions actuelles et leurs tendances. Elles sont nettement au-dessus de tous les scénarios les plus pessimistes du GIEC. À ce moment-là, vous commencez à vous poser des questions en disant, on nous dit, attention à 2050, dans des conditions qui ne sont plus les conditions d'aujourd'hui si on ne s'en occupe pas, et finalement, on en parle relativement peu. Les uns nous disent, oh, vous savez, on a un marché du carbone, on ne va pas toucher au marché du carbone, c'est déjà pas mal d'avoir un marché du carbone, peut-être que ce n'est pas bien adapté aux problèmes à traiter, mais c'est déjà quelque chose. D'autres disent, il y a des négociations internationales, c'est très difficile, on a un tout petit peu avancé, il n'est pas question d'y bouger, et puis, voilà, quoi. On est devant cette espèce de situation où on a l'impression que tout le monde attend tout le monde. Beaucoup de pays ou beaucoup de gouvernements nous disent écoutez, moi je ferais bien quelque chose, mais il faut que ce soit les autres qui commencent. Est-ce que c'est raisonnable de se dire ça? Donc moi je deviens très pessimiste parce que devant un certain nombre de solutions encore possibles pour prévenir le climat, je ne vois pas quelque chose bouger. D'autre part, je vois un certain nombre de gens dans les organismes internationaux qui disent, vous savez, je peux vous le dire entre nous, l'affaire est foutue. L'affaire est foutue, c'est trop tard pour faire de la prévention, il faut mettre nos billes maintenant dans l'adaptation. Et quand vous creusez un peu, vous apercevez que ce n'est pas l'adaptation pour tous. C'est l'adaptation pour 500 millions les plus riches, et puis les autres, ils n'ont qu'à crever. Voilà, c'est ça qui me rend très pessimiste. J'ai résumé, mais c'est quand même assez pessimiste.
C'est en tout cas effectivement matière à réflexion. Vous avez déjà dit énormément de choses. Alors Francis Chateaurinot, quel fil est-ce que vous souhaitez tirer?
Bah, écoutez, moi je suis impressionné effectivement par ce que vient de dire Benjamin dessus, parce que bon, je lis beaucoup ces textes, et alors ce qui est frappant, c'est, je dirais, quelque chose à creuser. Alors, on n'aura peut-être pas le temps, là, mais un écart entre la part de calcul, de modélisation, de conjecture extrêmement solidifiée aujourd'hui qu'il y a autour du climat. C'est-à-dire, on a quand même des économistes, des climatologues, des gens qui produisent du modèle et du calcul. Et effectivement, ce sentiment que les prises collectives, pour employer mon jargon, c'est-à-dire les capacités d'agir sur le futur, sont quand même toujours un peu laissées de côté. Alors que il y a quand même des choses qui évoluent dans la société civile, dans un certain nombre de lieux. Et donc, bon, là, ce que j'ai entendu, c'est effectivement, ça ressemble bien à une alerte, il n'y a pas de doute, mais une nouvelle alerte. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une alerte simple, parce que elle ne part pas de rien. Il y a une longue histoire déjà, c'est sur le climat. Il y a eu énormément de travaux qui ont été faits, de réunions, de négociations. Il y a tout un langage qui s'est installé. Et donc, les chances pour qu'une alerte soit entendue, quand le paysage est déjà saturé d'expertise, de discours, de normes, d'acteurs, évidemment, sont faibles. C'est-à-dire que justement, c'est ça le paradoxe. Il faudrait presque sortir pour rentrer. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est assez curieux, finalement, c'est que dans ce que nous annonce Benjamin Dessus aujourd'hui, on pourrait dire que c'est une alerte sur l'alerte. Alerte au carré, quelque sorte.
D'une certaine manière, oui. Mais ça, on l'avait déjà un petit peu formalisé avec Didier Torny dans les années, à la fin des années 90, qu'on avait parlé d'alerte dérivée. C'est-à-dire, à partir du moment où une alerte principale a été lancée et a produit des effets dans des institutions, dans des groupes, dans des controverses scientifiques, des mesures, etc. On découvre qu'ensuite, il y a plein de petites alertes qui naissent, évidemment, soit sur les mesures elles-mêmes, par exemple, en disant ça va pas, il faut revoir les calculs, ou il y a des choses qui ont été oubliées, soit sur la manière de traiter le phénomène. C'est-à-dire qu'au fond, donc, il faut, à mon avis, distinguer deux choses importantes, et ça, c'est le rôle de la sociologie qu'on essaye de développer. J'ai bien aimé la notion de trajet, à un moment donné, et de cible. Parce que dans lanceur d'alerte, vraiment, dans la notion telle, et c'est pour ça qu'il y a une différence avec whistleblower, sur laquelle on pourra revenir, c'est qu'il y a l'idée de lancer quelque chose vers une cible. Il y a un lanceur, et l'alerte doit poursuivre sa trajectoire. Après que le lanceur l'ait lâché, d'une certaine manière, ou lancé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une séparation qui se fait, et donc il y a une trajectoire qui est visée. Or, en fait, mais ça c'est le rôle aussi des sociologues, des historiens, des politologues de l'expliquer, toute trajectoire n'est pas linéaire dans le monde social. Il y a évidemment c'est dérouté, c'est perturbé, des acteurs s'agrègent dans le mouvement, déforment le message, ils trouvent leur intérêt ou au contraire essayent de le contrer. Et donc, dans le cas du climat, ce qui est intéressant, c'est que ça s'est monté de manière lancinante tout au long des années 70, 80, 90, bon, passant par Rio, les directives générales, etc., pour arriver aujourd'hui dans des espaces où on a le sentiment qu'un énorme travail politique et scientifique a été fait, et où il faudrait relancer la machine comme si on était au point de départ, quoi. Enfin, c'est-à-dire et donc, ce qui est intéressant dans cette inquiétude, c'est qu'elle est saine de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il y a, attention, ne nous reposons pas sur tout ce qui a été construit, accumulé, et réouvrons l'avenir. C'est-à-dire, regardons sur quoi on peut agir.
Moi, avant qu'on aborde ça, préciser un peu. Si on peut parler d'alerte, je ne sais pas si c'est une alerte, mais appelons ça une alerte pour l'instant. C'est pas sur une alerte en disant les gens se sont plantés, mais tirons les conséquences de ce que disent les scientifiques. Tirons-en les vraies conséquences, sans trop hésiter à raconter la vérité. Il y a plein de gens qui disent, attention, si on dit la vérité, on va bloquer la société complètement. C'est, d'une certaine façon et caricaturalement, Pellerin disant... je dis pas que les neutrons ont franchi la ligne bleue des Vosges parce que tout le monde va être affolé, quoi. Bon, on a tous un sentiment un peu comme ça. Il faut pas affoler les populations. Bon, ça, c'est un premier point. Deuxième point, je crois qu'il y a eu une attitude des scientifiques que j'ai déjà connue dans le nucléaire de penser le très long terme en oubliant le court terme. Je me souviens de l'histoire du débat sur les déchets nucléaires où le CEA nous a dit: moi, je m'occupe des déchets et mon problème, c'est d'éliminer les déchets dangereux à 10 000 ans. Et quand on leur posait la question, pour éliminer ces déchets à 10 000 ans, est-ce que vous ne prenez pas des risques considérables dans les 150 ans qui viennent? Ils n'avaient pas réellement réfléchi à cette question. Autrement dit, on fait la Hague, on ne fait pas la Hague, on a des ennuis avec la Hague, on n'en a pas. Enfin, on peut après les analyser comme on veut, mais il y avait cette espèce de sentiment que le long terme était le plus important et que par conséquent le court terme était pas très... Enfin, on s'occupait moins du court terme. Dans le cas du climat, la vraie question que je me pose, alors je suis pas très compétent, mais la vraie question que je me pose, c'est bien de protéger nos arrière-arrière-arrière-petits-enfants, mais si on est tous morts avant, il n'y aura pas d'arrière-arrière-petits-enfants. Donc il faut se poser la question du trajet.
Tout à fait.
Et c'est sur le trajet que moi j'ai un doute, et sur la façon de faire le meilleur trajet. Alors c'est l'histoire du méthane, c'est une façon d'améliorer le trajet.
Est-ce que c'est sur le trajet ou est-ce que c'est sur l'urgence du trajet?
C'est les deux. Et quand on regarde le trajet, on semble nous dire que la notion devient d'urgence.
Francis Chateaureno?
Cette idée d'échelle de temps, d'échelle temporelle est centrale dans toute alerte. De toute façon, vous avez dit tout à l'heure, certains disent qu'il est déjà trop tard, il faut passer à un modèle d'adaptation. En plus, sous-entendu, il faut sauver ceux qui méritent d'être sauvés. Enfin, bon. On entend dans tous les dossiers, hein, ça, c'est vrai, même de dossiers comme l'amiante, qui devraient quand même être largement passés et qui sont encore devant nous, parce qu'il y a des problèmes, il y a des victimes toujours, il y a des problèmes de désamiantage, etc. Il y a même encore de la production d'amiante, c'est pas réglé au niveau international.
Alors attendez, donc, comment est-ce qu'on l'entend? Parce que là, je suis intriguée. Comment est-ce qu'on entend? Il est trop tard et on va contourner l'affaire. Parce que dans l'amiante, une fois que quelqu'un est atteint, il est atteint.
Oui, mais justement, là, je ne parle pas des victimes individuelles, je parle de la manière dont on peut agir sur de manière globale sur une source de danger ou sur un risque ou sur une incertitude.
D'accord.
Et donc, et la question à chaque fois, ce n'est pas simplement l'incertitude pour elle-même, c'est une incertitude dans une échelle de temps qu'il faut articuler à trois choses. À ce qui s'est passé, donc à quel est le point d'origine où on fait démarrer les choses. On voit bien le problème des modèles du climat, c'est justement de se placer dans une échelle de temps qui peut être géologique, qui peut être l'ère industrielle, qui peut être etc. etc. À partir du moment où on a commencé à mettre des correctifs, donc il y a plusieurs formes de calcul. Il y a le temps présent qui est ce que les historiens dénoncent un peu comme le présentisme, c'est-à-dire cette tendance à vouloir communiquer pour gérer les affaires au mieux dans une urgence politique. Et il y a le futur, c'est-à-dire le type d'ouverture du futur qui est convoqué. Alors effectivement, dans le cas des déchets, on est sur des échelles extrêmement longues, ce qui produit des malentendus et des difficultés dans les débats publics, et particulièrement, c'est pas tellement visible. C'est-à-dire qu'au fond, de quoi on parle, quand il s'agissait du premier centre, par exemple, de stockage de la Manche, le CSM, qui était, lui, sur 300 ans, évidemment, les nucléocrates, ceux qui défendaient le secteur, disaient c'est du très court terme, c'est pas très intéressant, etc. Mais pour les gens du coin, 300 ans, c'est quand même très long.
Faut c'est dire, déjà pas mal.
Voilà. Et en plus, avec cette idée qu'on le rend ensuite, hein, c'est-à-dire que le centre est rendu à la sortie, quoi. C'est le problème d'emprise classique où vous avez libéré un site. Donc là, il y a des désaccords fondamentaux sur la question du temps et l'échelle temporelle. Et toute alerte, c'est ça qui est intéressant d'un point de vue philosophique, pose le problème du rapport à l'histoire passée, à la manière dont on lit la conjoncture présente et au type d'avenir qu'on investit.
Mais parce qu'on se rend bien compte quand même en vous écoutant l'un et l'autre que le temps fait partie des armes d'une certaine manière.
Ah, tout à fait.
Des armes du côté de ceux qui essayent de gagner du temps justement pour des raisons a priori économiques ou politiques ou de statut parce que tout ça est évoqué en filigrane dans ce que vous avez dit Benjamin dessus. Hein.
Oui, bon, il y a là-dessous il y a des intérêts. C'est pas seulement tout le monde s'aveugle. Ce serait un peu facile de dire tout le monde s'aveugle, tout le monde est gentil mais s'aveugle. Et à un sens du suicide collectif tel qu'on attend tranquillement que ça se passe ou que ça ne se passe pas. Il y a des responsabilités majeures, si vous voulez. Depuis 20 ans, Global Chance, avec un certain nombre de gens, et on est loin d'être tout seul, disent que pour des raisons énergétiques et pour des raisons climatiques, il faut faire des économies d'énergie. Depuis 20 ans, on n'a aucun succès, finalement. Aujourd'hui, le discours est repris, et demain, on va nous dire « Ah, si vous aviez fait des économies d'énergie, on n'en serait pas dans cette situation épouvantable. » Donc, les politiques sont manifestement responsables. Les industries aussi. Bon, c'est clair, quoi. Je veux dire, les industries, c'est parce que c'est beaucoup plus agréable de produire quelque chose et de vendre quelque chose que de l'économiser. Bon, c'est aussi clair que ça, et c'est normal. Mais si on n'a pas de contre-pouvoir, public sur ce genre de choses, c'est évident qu'on fera plutôt fabriquer de l'électricité que de fabriquer que de faire autre chose, que de faire des économies d'électricité. J'ai eu encore cette réflexion il y a peu de temps. Je comparais une politique méthane à une politique de centrale nucléaire à mettre en place, et je disais, du point de vue de l'effet de serre, voilà l'efficacité de l'un et de l'autre, et je comparais avec des chiffres, et instantanément, les gens m'ont dit, bah oui, mais dans un cas, je produis de l'électricité, dans l'autre cas, j'en produis pas. Je dis, mais mon problème est l'effet de serre. Aujourd'hui, c'est pas la production, c'est l'effet de serre. Est-ce que si vous avez besoin de plus d'électricité, on en parlera. Mais la question est, je veux faire des économies de gaz à effet de serre parce que j'ai une urgence. Dans un cas, ça me coûte tant. Dans l'autre cas, ça me coûte tant. Dans un cas, ça rapporte tant d'effet de serre et dans l'autre, tant d'effet de serre. Et il n'y a pas photo. Ah oui, mais ça ne produit pas. Donc, je ne peux pas vendre quelque chose. Et si je ne vends pas quelque chose, ce n'est pas intéressant, etc., etc. Donc, manifestement, il y a des intérêts. Et c'est normal, d'ailleurs, des entreprises derrière. Et une absence d'intérêt des politiques pour ces questions-là. Parce qu'aussi, un politique ne peut pas inaugurer une économie d'énergie.
Alors là, on est dans le cas de la contradiction inhérente à l'objet de l'alerte qui rend difficile de passer le message, Francis Chatorino. C'est-à-dire que le message du lanceur d'alerte, en l'occurrence Benjamin Dessus, il se heurte à des intérêts réels, évidents, annoncés, affirmés, qui finalement font que les personnes qui reçoivent le message hésitent, se demandent est-ce que j'ai vraiment très envie d'aller du côté de c'est la fin de la Terre parce que c'est la fin du climat, ou est-ce que j'ai plus envie de continuer à produire de l'électricité coûte que coûte.
Oui, tout à fait. Bon, ce qu'il y a de sous-jacent et qui est commun à tous les acteurs actuellement, c'est quand même la découverte maintenant qui s'accélère d'une grande interdépendance de tous les secteurs. Et de la difficulté justement à séparer les dossiers des uns des autres. C'est vrai que moi je l'ai vu notamment sur le nucléaire, comment à un moment donné certains acteurs arrivent en disant c'est bien, c'est propre, ça diminue l'émission de gaz à effet de serre, donc faisons du nucléaire. Puis évidemment tout de suite en face le contre-argument c'est oui mais ça génère des déchets nucléaires, etc. Donc on voit bien qu'à chaque fois qu'on tire un fil, on va en amener d'autres et on va poser des problèmes effectivement de qui sont supposés traités dans tous les débats et les concertations et les négociations autour du développement durable, par exemple. C'est-à-dire comment arriver à équilibrer tout ça, et c'est un calcul dans lequel les politiques, on le voit sur les OGM, par exemple, ont beaucoup de mal à rentrer, parce que ça les oblige à changer complètement de modèle, de passer du gouvernement à la gouvernance, c'est des mots d'ordre, des choses comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, pour eux, c'est extrêmement compliqué. Donc il y a toute une classe politique qui n'est pas formée, je dirais, au traitement de ce genre de complexité. Même si tout le monde est d'accord pour dire on est dans le complexe. C'est-à-dire que des événements singuliers peuvent produire des sauts qualitatifs extrêmement fondamentaux, irréversibles, et ça donne des lectures extrêmement paradoxales. Je me rappelle d'une discussion avec Olivier Godard, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, faire une espèce d'analyse permanente, réflexive, de la manière dont l'économie entre et modélise ces questions-là de risque, de principe de précaution, d'incertitude. Et il est évidemment lui aussi très sceptique sur la manière dont on délègue aux experts une espèce de formatage, et on est resté finalement dans un modèle de prévision assez sommaire, alors qu'on est dans une complexité qui oblige à une pluralité de lecteurs de l'avenir. Et c'est ça qui est difficile. Quand on lance une alerte, on amène un élément nouveau, normalement, dans un espace qui est déjà constitué. On n'est pas dans le désert, on ne crie pas dans le désert, justement, c'est le lanceur d'alerte s'adresse toujours à des instances, que ce soit des instances publiques, l'État, ou des organisations internationales, des médias, ou des chercheurs. Et évidemment, cet espace constitué a tendance à recoder, à retraduire dans l'existant, et à minimiser forcément le signal pour ne pas modifier, c'est l'epsilon. Et Jean-Pierre Dupuis avait eu une formule bizarre d'ailleurs qui avait suscité des discussions en disant il faut annoncer le pire, donc c'est le catastrophisme éclairé, pour éviter qu'il se produise à un accident près. C'est-à-dire à un epsilon près, à un événement epsilon qui peut en fait complètement dérouter ce qu'on a. Et en fait, le modèle qui est sous-jacent, c'est le 11 septembre. C'est-à-dire que quelque chose de totalement. Enfin, qui après coup apparaît toujours un peu prévisible. On dit bon, la CIA savait, etc. Enfin, il savait quoi. C'est toujours tant que l'événement n'a pas eu lieu, il n'a pas eu lieu. Et donc c'est ce que j'appelle dans un texte les visionnaires à rebours. C'est-à-dire que c'est toujours facile une fois que l'événement a eu lieu de dire on tout était là quoi. Enfin, on découvre les conditions préalables qui ont. Mais il y a eu cet événement qui a, je sais pas, c'est les philosophes heideggeriens qui emploient cette expression, je trouve un peu barbare, qui est possibilisé. C'est-à-dire que c'est pas la question des conditions de possibilité, c'est ça rend possible par le simple fait que ça se produit. Et du coup, ça crée une rupture. Et on est aujourd'hui dans cette espèce de métastabilité, c'est-à-dire d'une stabilité sous conditions extrêmement fragiles. C'est-à-dire qu'à tout moment, un événement peut complètement perturber l'ensemble du système et produire de l'irréversibilité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé ce seuil, il faut revoir l'ensemble. Et je pense que l'inquiétude là qui nous est livrée, c'est celle, il faut se remettre au travail, il faut rendre lisible ce qui existe. Et alors, écouter les scientifiques. Ça, on peut en discuter parce que c'est compliqué. Parce que les scientifiques, c'est pas des anges dans un ciel des idées aujourd'hui. C'est compliqué la recherche. C'est aussi un des enjeux majeurs. C'est un autre. Moi, je lancerais plutôt une alerte sur comment se construit la recherche publique aujourd'hui.
Je reviendrai sur l'alerte par un autre point en disant l'un de mes soucis. Et là, je reviens plus sur une habitude de ce qu'on fait à Global Chance, c'est de constater l'absence de cohérence globale. L'alerte, c'est presque plutôt ça. Des scientifiques disent quelque chose, je remets pas en cause parce que c'est pas mon boulot ce qu'ils disent, je sais pas faire. Je suis pas 10 000 climatologues à moi tout seul, je dis d'accord, ils ont raison. Tirons-en les conséquences. Regardons ce qui se passe. On prend le Grenelle, par exemple, sur les affaires du climat. Quand on regarde les N mesures sur le climat du Grenelle, en gros, il y en a 3 qui font 80% du boulot. Les 3, c'est il faut faire passer les voitures de 180 grammes au kilomètre à 130. La deuxième, c'est il faut isoler toutes les maisons anciennes de France, et il y en a 16 millions. Et puis, il faut faire des énergies renouvelables, faire 20 mégateps d'énergie renouvelable. Quand on regarde, d'abord, il y en a 2 sur 3 qui ne sont pas des mesures de production, qui sont des mesures d'économie, qui font les 60% à L2. Quoi. La première, en France, on commence à nous dire, vous savez, ça dépend de l'Europe, on n'y peut pas grand-chose. La deuxième, sur les logements anciens, on dit, vous savez, les Français ne sont pas prêts à se casser beaucoup de troncs, on va leur faire un diagnostic, mais le marché va résoudre tout ça, alors qu'à un moment, il faudra rendre un certain nombre de choses obligatoires, sinon il ne se passera rien. Et la troisième, dans le domaine des transports, c'est les agrocarburants, dont on sait très bien qu'on ne les fera pas comme on avait prévu de le faire, pour des tas de raisons, l'environnement, etc. Et que sinon, il faut mettre du bois dans toutes les chaudières en France, ce qui n'est pas très simple. Bien. On fera des éoliennes, mais enfin, on ne peut pas tout faire que de l'électricité éolienne partout. Donc, on est sur 3 trucs où, manifestement, sans une volonté politique absolument majeure, on sera très très loin. Et on peut le dire aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas, mais si on veut le faire, il faut vraiment aller à Bruxelles en poussant des cris, il faut vraiment faire des choses obligatoires dans le logement au moment des transactions, etc. etc. Bien. Il ne se passe rien. Je veux dire, on ne va pas au bout de ce qu'on veut dire. Alors, ou bien on dit, on s'en fiche, et on ne fera pas 20% d'économie de gaz à effet de serre en 2020. Si on ne fait pas 20% d'économie, il faut s'adapter. Comment on s'adapte, etc. Je veux dire, c'est cette cohérence qui me semble complètement manquée entre le discours aux besoins du Grenelle, par exemple, qu'on retrouve, qui vient de ce que les scientifiques disaient un peu en amont, les experts, etc., et ce qu'on fait derrière. On a eu le même sentiment avec les OGM. Hein, bon. Et ça, est-ce que ça suffit de dire ça? Je pense pas. Si on n'organise pas un rapport de force derrière, ça sert à rien du tout. Alors, ça peut servir à créer le rapport de force, mais c'est tout.
Oui, Francis,
justement, c'est à ça que je pensais. C'est que, en lisant les articles de Global Science, je voyais une discussion très technique d'un certain nombre d'indicateurs, de mesures, etc. Puis, dans les commentaires, il y avait cette notion de rapport de force qui apparaissait tout à coup. Effectivement, ça, c'est un aspect qui, bon, on ne peut pas laisser le sociologue indifférent, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est comment se construisent des rapports de force. Sur quoi, avec quelles ressources, par quels acteurs, et qu'est-ce que ça devient? Comment ça se transforme en légitimité? Parce qu'un rapport de force, pour lui-même, c'est pas très intéressant, etc. Donc, quel type de rapport à la connaissance ça peut produire? Quel type d'instances nouvelles peuvent agir? Et au fond, comment ça permet de passer à l'action? Et de transformer le monde, c'est-à-dire de produire des... Donc sur les différents dossiers, on a des rapports de force de nature très différente. Même sur les OGM, si on compare les OGM, là en ce moment j'ai fait un travail systématique en regardant le nucléaire, les OGM et les nanotechnologies, qui sont 3 dossiers qui communiquent parce qu'on a des rapports extrêmement asymétriques au départ, hein, que ce soit l'énergie nucléaire, dont on voit bien que l'entrée de la société civile dedans s'est faite graduellement par la critique externe, il a fallu aussi Tchernobyl qui a beaucoup contribué à changer les représentations. Dans les OGM, où on a quand même des firmes extrêmement en prenante, on voit bien que le livre sur Monsanto est typique de ça, il y a effectivement des choses très différentes. Et sur les nanotechnologies, où on a l'impression que ça recommence, enfin, en tout cas, un certain nombre d'acteurs lancent l'alerte de manière très virulente, hein, notamment à Grenoble, où le sentiment que le CEA et un certain nombre d'acteurs se construisent un univers, projettent la science du futur. Alors, c'est très lié à un certain nombre de rapports aux États-Unis, à la manière dont la compétition internationale de la recherche justement s'est transformée. Dans les dernières décennies, il y a eu un changement considérable de ce point de vue. Et donc, sur ces dossiers-là, déjà, on voit que la manière de construire les rapports de force change complètement selon les acteurs. C'est-à-dire qu'au fond, la place du débat public, par exemple, n'est pas du tout la même. On l'a vu sur le nucléaire, ça a été quand même une première en France. Hein. Les débats de 2005, organisés, donc les 3 débats simultanés, organisés par la CNDP sur l'EPR, donc le réacteur, qualifier de nouveau, mais en fait discuter déjà, parce que pour la plupart des experts, c'est un vieux truc, le EPR, c'est pas un truc nouveau. Ensuite, les déchets nucléaires et la fameuse ligne, c'est ça qui est marrant, la THT, qui est justement celle qui a plus mobilisé les riverains, parce que là, on pourra en discuter. C'est aussi la visibilité des objets en cause dans l'espace immédiat. Donc là, on retrouve une échelle temporelle du monde tel qu'il est. On va me mettre une ligne, donc c'est demain, quoi. Hein. C'est pas dans 150 ans. Évidemment, dans d'autres
mais
secteurs...
Mais alors, attendez, Francis Chetorino, parce que là, vous êtes en train de partir dans des directions où on risque de s'égarer un petit peu. Au centre de tout ça, quand vous dites, dans les trois domaines que vous étudiez en ce moment, le rapport de force se construit de manière totalement différente. Quelle est la place et le rôle du message dans ces trois constructions de rapports de force, c'est-à-dire le message OGM, le message nanotechnologie, le message nucléaire? De quelle manière est-ce qu'il contribue à forger ou non ce rapport de force? Et de quelle manière, en fait, la question sous-jacente, c'est comment faire en sorte que le message, à un moment, soit effectivement saisi au vol? Vous le disiez, c'est une trajectoire, on le lance, donc comment faire pour que quelqu'un s'en empare et que la société commence à être transformée par ce message?
Écoutez, il y a un certain nombre d'outils collectifs qu'utilisent les acteurs, et c'est pour ça qu'on observe dans ces trois dossiers une forte présence de l'activisme, c'est-à-dire des actions radicales, que ce soit Greenpeace qui pénètre sur un site nucléaire, ou les histoires de convois de déchets qu'on a vu de manière répétée, etc. Dans le cas des nanotechnologies, à Grenoble, vous avez un groupe PMO qui est extrêmement actif et qui produit des performances, de certaines manières, pour critiquer un peu le système et faire apparaître les problèmes publiquement. Et dans le cas des OGM, bon, les faucheurs, enfin, on voit bien. Donc, c'est le rapport de force, là, il suppose, justement, le message ne peut pas durer s'il n'y a pas construction d'acteurs capables de déplacer les forces, d'amener sur la place public en permanence cette question, et précisément parce que les asymétries, les pouvoirs sont extrêmement constitués. Il y a d'autres secteurs où l'alerte passe plus facilement, parce que, alors, on peut regarder, c'est aussi parce que les relations à la santé publique sont plus faciles à établir, où il y a plus de médiation, des médecins, des chercheurs qui ont plus de marge de manœuvre, etc., ou des associations. Et donc, dans ces trois secteurs-là, ce qui est flagrant, si vous voulez, c'est la forte inertie des systèmes sociotechniques et des pouvoirs techniques qui maîtrisent l'avenir du dossier. Et donc le message, il est condamné à passer par des luttes. En tout cas, c'est le constat qu'on est obligé de faire. On voit bien que le dossier des OGM, c'est pas fait dans une espèce. Alors, il y a eu la conférence de citoyens de 98. Ça, je parlais des différentes tentatives de débat public, sont très intéressantes de voir ce que ça produit. Et vous voyez que bon, il y a une tentative de réguler cette question d'entrée des OGM en Europe et en France en particulier, par une discussion avec une forme qui vient des pays du Nord, hein, qui est la forme de conférence de citoyens, qui est pacifié, où on tire au sort les gens, c'est pas des activistes, etc., où l'expertise est redistribuée, et en fait, 10 ans après, on est toujours dans un rapport de force.
Mais est-ce que c'est pas dû au fait qu'il y a une méprise totale en France sur le sens et le but de ces fameux débats publics? C'est-à-dire, on aurait le sentiment en France qu'à partir du moment où le débat a eu lieu, il est clos, et tout va bien, et on passe à autre chose.
Je pense qu'il y a eu des évolutions très fortes là-dessus, mais la CNDP, bon, il faut interviewer, il faut faire venir des gens... Il y a eu des évolutions. C'est-à-dire qu'au départ, c'est quand même très lié aux aménagements du territoire. Hein, ça vient beaucoup du conflit TGV, enfin, des choses comme ça, Méditerranée. Donc on va essayer de calmer un peu le jeu et de faire en sorte que le riverain et les associations soient prises dans le processus, etc. Mais progressivement, ça se déplace et les débats, même parfois locaux, sur un port méthanier ou une ligne électrique, etc., engagent très vite des enjeux plus globaux ou des acteurs qui arrivent avec des argumentaires beaucoup plus constitués. Et donc ça, c'est devenu ingérable de faire croire que le débat va se clore sur lui-même et qu'on passe, et bon, on passe... aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui est particulièrement décrite dans un ouvrage qui a paru La Découverte cette année ou à la fin de l'année dernière, qui s'appelle Le débat public, une expérience de démocratie participative, je crois, et qui montre bien que ce qui maintenant est clair, c'est qu'un débat se situe dans une série d'opérations, d'actions, de consultations, et que justement, alors c'est ça qui est étonnant, c'est que dans le cas du nucléaire, des OGM et des nanotechnologies, pour l'instant, ça ne structure pas. Mais sur d'autres secteurs, on arrive à avoir des sorties de débat où les arguments ont été clarifiés, où des acteurs se sont constitués et ont produit des choses, et on a quand même une trajectoire de la cause, de l'objet, de l'affaire, qui est beaucoup
un
plus.
Un exemple,
nette.
Juste.
Ben, par exemple sur.
Et ensuite Benjamin Dessus, je vous repasse la parole.
Vous avez des exemples, évidemment c'est toujours plus local, hein. Vous avez des exemples sur des incinérateurs, sur toutes les
oui.
choses où les acteurs vont pouvoir se oui. saisir plus facilement de la carte des enjeux et des pouvoirs, c'est sûr.
Mais c'est très intéressant parce que vous dites vous-même, voilà, c'est plus local. C'est-à-dire que de fait, ouais. les deux éléments qui ont l'air extrêmement constitutifs, c'est le temps et l'espace, ouais. vraiment. Benjamin Dessus.
Moi, j'avais plusieurs remarques sur ce que vient de dire Doreno. Premièrement, les trois exemples qu'il a pris sont des exemples de production. Production nucléaire, production d'OGM, production de nanotechnologie. Donc avec des acteurs, des ennemis pour la société civile, parfaitement identifiés. Bon. Ce qui permet de faire de l'activisme assez facilement. Parce qu'on a un méchant devant soi et un bon. Enfin, on peut jouer aux gendarmes et aux voleurs. Bon. Et il y a une partie de gendarmes et aux voleurs dans la prise de conscience de l'alerte. Bon. Ça, c'est une chose. Du point de vue du débat maintenant, des CNDP et autres, la grosse difficulté des débats, quand ils ne sont pas un incinérateur, quand ce sont des débats génériques, c'est-à-dire faut-il faire du nucléaire ou pas, qu'est-ce que c'est que les déchets nucléaires, etc., etc., c'est justement le fait qu'ils sont génériques, qu'on n'a pas un objet à discuter dans un lieu et dans un temps déterminé, on a une question à discuter. Donc ça, c'est plus difficile. On l'a bien senti par rapport à un débat sur un port méthanier ou un port je sais pas quoi, et le débat sur l'EPR qui n'était pas un objet, mais on va faire des réacteurs nucléaires de tel type, hein, parce que ça avait été seulement un objet, c'était beaucoup plus facile, et encore plus sur les déchets nucléaires, il y a une difficulté particulière. Puis il y a un troisième point. Alors, je dis, avant de passer au troisième point, que dans le cas du climat, c'est encore plus compliqué. Parce que justement, on a, dans l'alerte, à déjà définir les acteurs, dont on nous dit c'est tout le monde. Et c'est d'abord vous, monsieur. Prenez moins de douche, disait madame notre ministre. Vous, hein, et on renvoyait au consommateur. Donc on culpabilise le consommateur, essentiellement, ce qui permet à l'État, aux entreprises, etc., de se dédouaner complètement. Donc dans le climat, c'est plus compliqué. Troisième point sur lequel j'aimerais bien qu'on discute un peu, et qu'on a abordé d'ailleurs dans le Global Chance, dernier numéro de Global Chance, c'est le problème de la concurrence ou pas entre une démocratie participative à travers ces débats publics, ces conférences de citoyens, etc., et la démocratie représentative, qu'on sent manifestement dans l'histoire des OGM. Dans l'histoire des OGM, à mon avis, le Sénat, dans sa première prise de position, naturellement, il y avait beaucoup de gens qui étaient proches de l'agriculture dans le Sénat, mais il y en avait aussi une réaction. Écoutez, qu'est-ce que c'est que ces oseaux, ces cinq collèges qui, à Grenelle, nous imposent des trucs? Nous sommes la représentation nationale, c'est quand même pas à nous, il faut vous expliquer ce qu'on va faire. Donc il y a manifestement une très grosse difficulté de raccord entre ces deux types de démocratie qui sont tout aussi nécessaires l'un que l'autre et qui ne soient pas vécues comme totalement antinomiques.
Mais je vous propose qu'on reste d'abord sur le premier point un moment, parce que ce que vous dites m'intéresse énormément sur cette difficulté effectivement à cerner les acteurs qui fait difficulté à cerner le fait qu'il y a peut-être deux camps. D'une certaine manière. Il peut y avoir deux camps, mais c'est extraordinairement difficile à dire ou même à penser. Et à cela fait pendant quelque chose qui n'a pas fini d'étonner bon nombre de personnes. Vous parliez tout à l'heure, Benjamin Dessus, de ceux qui imaginent aujourd'hui pouvoir en quelque sorte sauter l'étape terrible des mesures à prendre pour empêcher, pour endiguer le réchauffement climatique, en se disant, eh ben, on passe tout de suite à l'étape suivante qui est, on va s'adapter. Et il y a quelque chose de totalement hallucinant à imaginer qu'il va être possible de s'adapter à un réchauffement climatique de plus de 5 degrés sur la planète, comme si le fait d'avoir de l'argent aujourd'hui allait permettre demain de vivre sur une planète qui ne serait plus habitable par les humains. Donc difficulté à discerner les deux camps et difficulté pour certains à comprendre que bah, finalement, en effet, on fait tous partie du même camp, c'est-à-dire l'humanité qui est globalement menacée aujourd'hui. Francis Chateaureno.
Ben oui, non, c'est ce problème de complexité, de gouvernance qui anime énormément de secteurs. Hein. Vous prenez le nombre de publications sur ces questions-là et on n'a pas le sentiment. Alors, il y a deux problèmes, je pense. Il y a le problème de l'articulation entre des intérêts toujours locaux, toujours liés à des milieux, à des activités et le global. C'est-à-dire comment chaque acteur, au fond, lui-même, retraite le problème global pour construire sa position, etc. Donc c'est déjà extrêmement difficile à décrire. Et le deuxième problème, c'est comment s'articulent des instances qui sont déjà globales, c'est-à-dire qui représentent des intérêts généraux au niveau international, que ce soit l'ONU, que ce soit des comités scientifiques, que ce soit des groupes d'industriels, etc. Et comment eux vont communiquer avec le reste du monde. Et donc c'est cette espèce de réarticulation locale globale que d'ailleurs Michel Serres avait vu très tôt hein, dans ses textes comme nouveau problème qui allait être le problème de philosophie politique majeur que posait l'écologie de façon d'une manière centrale. Et donc là, à mon avis, c'est là qu'il faut être rééquipé. Moi, je suis très terre à terre, j'ai envie de dire. Allez-y. Rééquiper la sociologie, c'est mon boulot, qui consiste à dire donnons-nous des outils nouveaux pour essayer de serrer les problèmes, de regarder quand émerge un acteur, à qui il s'adresse, que devient sa production? Est-ce que c'est des récits, des arguments, des expertises, des données, des points de vue, etc. Comment ça circule? Comment les espaces se mettent à s'organiser autour d'une parole publique? Et repartons de là, parce que si on met en scène la planète, et c'est, alors qui la représente? Enfin, c'est toujours un problème de représentation politique, mais simplement déplacée à une échelle supérieure, avec justement ces questions de temps qui sont centrales, c'est-à-dire est-ce qu'on est en urgence ou est-ce qu'on a du temps, quel temps on se donne, quel temps on prend, et toute alerte pose ce problème, et pas seulement alerte, toute controverse aussi. C'est-à-dire combien de temps on discute? Quand est-ce qu'à un moment donné, une discussion doit s'arrêter et passer à autre chose? Et le problème des débats publics est assez intéressant, c'est quel temps on donne au débat? Est-ce qu'on se donne le temps de discuter ou est-ce qu'on fait ça sur 15 jours et on considère qu'on a, voilà, tous les arguments sont sur la table? Il y a aussi un problème intéressant, qui est un problème cognitif, hein, qu'on voit bien ici dans notre discussion, c'est l'arbre des arguments possibles. Est-ce que cet arbre est donné une fois pour toutes? C'est-à-dire que c'est bon, on a parcouru l'ensemble de ce qu'on pouvait dire sur un sujet. Ou est-ce qu'il y a des arguments nouveaux qui peuvent surgir, c'est-à-dire qui peuvent modifier l'interprétation qu'on va donner à l'ensemble des possibles et changer l'ordre des priorités.
L'epsilon dont vous parliez.
Voilà, par exemple. Et donc, par exemple, c'est vrai que le 11 septembre, l'air de rien, sur la question des risques, a produit une dérivation. Moi, je l'ai signalé au colloque lanceur d'alerte, puisque les experts en sécurité se sont dit, bon, faut tout reprendre. Et là, il y a plein de textes qui circulent au nom de la sécurité globale, de l'alerte globale. C'est-à-dire qu'il faut tout relier. Il faut tout relier parce qu'au fond, maintenant, on est dans une hyper-vulnérabilité et où, finalement, on ne peut plus séparer les risques avec malveillance ou ennemis et les risques qui relèvent, en fait, d'un problème de choix démocratique, d'organisation des mondes où il n'y a pas de méchants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas fondamentalement de gens qui veulent le mal pour les autres. Et justement, ce brouillage-là, par exemple, a produit une cacophonie assez incroyable. Il faut reprendre, je pense, à la base, les dossiers.
Benjamin
Dessier. Ça me mène à deux réflexions. L'histoire du local et du global, moi j'en ai parlé tout à fait au début en disant, si on considère sous prétexte que notre problème est global, l'effet de serre, qu'il faut attendre que tout le monde s'y mette, on est foutu. Bon. Ouais. Et donc, comment convaincre un gouvernement, le gouvernement français, qu'il faut y aller? Et qu'on y trouvera d'ailleurs des intérêts. Si on fait des économies d'énergie avant les copains, on vendra mieux son matériel, etc. On a tous les arguments techniques ou économiques pour faire ça. Cela dit, ça convainc personne. Par contre, du point de vue local au global, dans l'affaire du climat, c'est particulièrement difficile. Ça devient facile si vous commencez à avoir beaucoup d'inondations. Mais vous voyez, il faut attendre d'avoir les inondations pour commencer à convaincre les gens. Or, quand on aura les inondations, c'est trop tard. Donc on a ce problème de trucs qui, dans le temps, se recouvrent. Quoi. Donc, on ne peut pas attendre d'avoir les preuves qui vont convaincre localement pour se mettre à agir. Bon, localement. Donc ça, c'est un autre problème. Par contre, je ne sais plus, je voulais vous dire autre chose, mais parce que
ça m'évoque un phénomène qu'on a constaté. Vous savez, quand il s'agit de vision du futur, parce que l'alerte engage la question de quel futur va se produire, et est-ce qu'on peut agir de façon à ce que telle ou telle chose ne se produise pas. Donc on est dans une situation de logique formelle par rapport à la logique classique, où voilà un fait, j'ai une règle d'interprétation et voilà la conclusion. Là, on n'a pas... D'abord, la règle d'interprétation est pas claire et ensuite, les faits ne sont pas produits. Donc, on est obligé de peupler le raisonnement de conjectures, de possibilités, etc. Alors, quand il y a des précédents, quand il y a des événements qui s'accumulent, évidemment, ça permet de remplir cette fonction. C'est-à-dire que, voilà, on met bout à bout une tempête extrême, un changement de température.
Oui, voilà, en l'occurrence, sur le climat, on a quand même cet enchaînement.
Oui, mais c'est en même temps une discussion scientifique. C'est une scientifique parce qu'on vous dit, la question du climat n'est pas la météorologie. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce problème, justement, de dissociation entre le perçu, le vécu, le phénoménologique, c'est-à-dire le monde et ce qui s'y produit de manière... locales, etc., et les projections, c'est-à-dire l'analyse sur la longue durée. C'est cet apprentissage-là qui doit se faire, à mon avis, pour que ça puisse prendre.
Mais c'est pas simple, parce que l'Antarctique fond,
oui.
Et ma vigne dans le Bordelais, qu'est-ce qu'elle devient ? C'est pas facile de faire. Hein ? Non, mais c'est ça, si vous voulez, vous avez un vigneron dans son terrain à Bordeaux, et puis il entend à la radio que l'Antarctique fond, et on lui dit c'est très grave. C'est pas facile à gérer, quoi.
Bon. C'est vrai
l'autre problème, moi, que ça m'est revenu, une réflexion sur ce que disait Château Renaud, c'était cette histoire de la complexité. Je dois dire que moi, j'en ai un peu marre, sous le prétexte de la complexité, qu'on ne fasse jamais rien. C'est-à-dire que moi, je me souviens très bien avoir dit, si on mettait un tramway à tel endroit, ça améliorerait les choses dans la circulation parisienne et ça ferait des économies d'énergie. Et le corps des ponts m'avait répondu encore constitué, nous avons des modèles qui disent que si vous faites un tramway à Paris, ça va réagir sur la circulation à Marseille. Donc on peut rien dire. Et c'est vrai que ça joue sûrement sur la circulation à Marseille. Mais enfin, quand même, quoi. Donc, à force de complexité, on n'a plus d'ordre de grandeur. Est-ce que ce truc est gros, petit ou moyen, quoi ? Et il me semble quand même... qu'on peut dire ce truc est gros, ce truc est petit, ce truc est moyen, ça vaut la peine de le faire, ça vaut pas la peine de le faire. Je pense que, et je retombe sur le problème de la cohérence, c'est d'appeler un chat, et deux chats, deux chats. Et sans chat, quoi. Ben, y a quand même des ordres de grandeur. Et ça, j'ai l'impression que le discours sur la complexité mal vécu aboutit un peu à ça.
Aboutit à une forme de paralysie.
Oui,
parce que depuis paralysie. Tout à l'heure, je vous écoute et je me dis finalement, on est dans un amoncellement d'informations, de réflexions, de suppositions. Et finalement, la seule chose qui manque, c'est l'action. Comme s'il y avait une difficulté à traduire tout cela en gestes, tout simplement. Alors, ça pourrait être, vous le disiez tout à l'heure, Francis Château-Renaud, un problème cognitif, mais un problème cognitif socialement construit. C'est-à-dire, il y a une forme sociale d'accès à l'information et à la culture qui rend finalement impossible de traduire cette connaissance accumulée en gestes, oui. Je n'ai pas d'autre mot que ça.
Non, moi je retombe sur le rapport des forces à ce moment-là, parce que s'il n'y avait pas des intérêts des uns des autres,
non mais d'accord, évidemment rapport de force, mais je vais vous donner un exemple. Une de mes consoeurs me disait un jour, très contente, moi ce que j'aime, c'est qu'à la fin d'une émission de radio, les gens ne sachent plus quoi penser. C'est-à-dire, ce qu'elle aimait, c'était que finalement, on ait entendu des choses si contradictoires que plus personne ne puisse se déterminer à l'issue du débat. Et ça me paraît être une forme extrêmement répandue de nos jours. Il y aurait une forme d'élégance à ne pas savoir quoi penser, ne pas savoir si c'est blanc, noir, si c'est oui, non, etc. Et ça me paraît extrêmement dommageable, justement, pour... le fait de décider d'entreprendre quoi que ce soit. C'est là que je vous parle de problèmes socialement construits. Alors certes, rapport de force, mais un rapport de force qui serait non pas uniquement dû au fait qu'il y a des intérêts contradictoires, mais qu'il y a une façon, alors là, pour le coup collective, de ne pas savoir utiliser les connaissances. Ou de ne pas vouloir.
C'est pour ça que moi j'insiste beaucoup sur la cohérence d'un discours, la cohérence d'un discours pas du grand tout, mais qui donne des ordres de grandeur des différentes choses. Si vous voulez, tout ce débat, par exemple, sur le nucléaire qui va sauver la planète, on fait un scénario, on regarde, on fait plein de centrales nucléaires, on regarde si ça sauve la planète, ou ça la sauve, ou ça la sauve pas. Et ça relativise le discours, c'est tout ce qu'on peut en dire. Et des trucs comme ça, c'est considéré comme irrecevable, je ne sais pas pourquoi. Et on continue à avoir un discours, je vais faire du nucléaire, je vais sauver la planète, parce que ça ne fait pas d'effet de serre. Ce n'est pas à la dimension. Ça peut y contribuer, mais ce n'est pas à la dimension. Bon. Comment on fait pour que ce genre de propos, qui est relativement facile à établir, puisse être repris collectivement?
Oui, c'est une bonne question. C'est une question sociologique par excellence. C'est comment on fait des collectifs qui sont capables d'apprendre et de mettre en travail l'expertise produite. Et c'est justement, me semble-t-il, un des thèmes qui a beaucoup préoccupé les mouvements comme Sciences Citoyennes ou d'autres. Et ça reste un grand point d'interrogation. Par exemple, si on reprend toutes les expériences de débat qui ont eu lieu en Europe ces 20 dernières années, il y a le sentiment qu'effectivement on occupe beaucoup, que la prise de parole est plus importante que le contenu de ce qui est dit. Hein. Donc il faut qu'il y ait une polyphonie absolument nécessaire, une variation absolument nécessaire, etc. En fait, qui est une extension sans limite d'un modèle idéal de la République des lettres, de la controverse pure, qui ne peut pas avoir lieu sous cette forme dès qu'on l'étend. C'est-à-dire qu'en fait, une vraie controverse, moi j'ai essayé de le défendre face à des collègues comme Michel Calon ou d'autres, c'est forcément confiné. C'est-à-dire qu'une controverse, c'est un certain nombre d'acteurs qui partagent des règles de méthode, qui vont discuter de manière pointue sur des modèles, sur des données, sur des interprétations. Si vous faites rentrer un grand nombre, c'est la fameuse formule du forum hybride, plus vous faites rentrer d'acteurs dans cette controverse, c'est plus une controverse. Mais on continue à parler de controverse parce que le terme est élégant, etc. Nous, on parle de débat public, de polémique, d'affaires publiques, de crise, pour bien différencier les changements. Donc c'est là aussi où, pour sortir justement de ce mélange des genres, etc., c'est de resserrer un petit peu, non seulement de quoi parlent les acteurs et où ils sont, de les situer, mais dans quel régime de parole ils sont. Et de bien, par exemple, dans le lanceur d'alerte, ça c'est un truc que je prêche depuis longtemps, c'est attention, différencions un peu l'alerte de la dénonciation. Ne mélangeons pas, quand quelqu'un va en justice, c'est parce qu'il y a une plainte, ça ne rend pas forcément service à l'alerte. Ça peut rendre service à la personne, ou ça peut défendre des droits, ou faire évoluer le droit. Et donc il y a des différences à faire, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de judiciaire, mais le judiciaire joue un rôle important dans ces affaires-là, parce qu'à un moment donné, c'est finalement parfois le contentieux qui fait avancer un dossier, puisque le débat ne fait rien, le rapport de force reste, il faut tout le temps remobiliser, etc.
Oui, en l'occurrence, peut-être pas sur les questions du climat.
Alors justement, voilà, oui. Mais c'est ça, c'est un dossier qui manque
aussi.
De...
Un point que j'avais envie de signaler, moi,
alors,
c'est
très rapidement, puisque
oui,
on va
parce
s'arrêter.
Que et qui m'inquiète, c'est moi j'ai pris conscience et je suis devenu pessimiste sur cette histoire de climat parce que je l'ai regardé de beaucoup plus près. Autrement dit, le fait qu'on s'approprie un sujet est très important, qu'on travaille un sujet. On regarde de plus près. Sinon, je faisais confiance à ce que disaient les gens. Et effectivement, j'avais tendance à dire il y a Monsieur Machin qui dit que, il y a Monsieur Machin qui dit que, et finalement, j'ai pas d'opinion. Et quand vous travaillez la question, vous en faites une.
Et ça,
comment
fait,
on fait pour le rendre collectif, ça?
De fait, ça, c'est un constat que font tous ceux qui se sont approchés des questions d'environnement, d'une manière générale. Bah, écoutez, je suis désolée qu'on n'ait pas réussi à sortir de... sauver la planète, non, mais sortir du pessimisme Benjamin dessus. Mais je vous remercie l'un et l'autre d'avoir contribué à alimenter la réflexion. Donc, Francis Château-Renaud, Benjamin dessus, merci d'être venu ce matin. Et pour nos auditeurs, vous savez que vous pouvez réécouter cette émission et même la télécharger pendant une semaine sur notre site franceculture.com. Vous y trouverez également une bibliographie, la revue de web hebdomadaire, les émissions des deux mois précédents. Et puis, vous pouvez aussi, bien sûr, nous téléphoner au 01 56 40 36 72. Ou nous écrire à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation Véronique Herbert, Laurence Chenepin, Anne Gouzon, mixage Philippe Mercher, réalisation Olivier Bétard. Bonne semaine à tous.